RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters de Sylvain Deplace et Ludovic Julie, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OL avec aujourd'hui Daniel Riolo. Daniel, bonjour.
Bonjour.
Édouard G avec nous également en direct de Lyon. Salut Édouard.
Salut Gilbert, salut Daniel, bonjour à tous.
Au programme, l'évaluation traditionnelle après le match à Strasbourg et des débats comme toutes les semaines. Cette victoire lance-t-elle définitivement l'OL? Et puis le souci des latéraux, on en a parlé dans l'after de dimanche soir. On veut l'avis d'Edouard, qui doit être titulaire à gauche, qui doit être titulaire à droite. C'est tout de suite dans le podcast After Lyon. Édouard, ton taulier à Strasbourg, c'est qui?
Est-ce qu'on est obligé de mettre Memphis?
Forcément. Tu peux.
Trois passes décisives.
On a quand même pas mal fracassé ces dernières semaines, donc quand il est bon.
Exactement. Trois passes décisives. Il avait déjà fait ça à Metz le 8 avril 2018. Il a beaucoup donné dans ses appels. Après, j'ai bien aimé aussi. Je voudrais mettre une mention spéciale à Tino Kadewere. Alors certes, Gilbert, tu vas me dire que son premier but, il y a une faute de main du gardien strasbourgeois Camara.
Mais puis, il est peut-être en jeu aussi.
Ouais, mais en tout cas, je pense que c'est important pour sa confiance après son but marqué mais annulé face à Marseille. Lui qui a vécu un été un petit peu difficile, hein, avec la mort de son frère. Et pour marquer son premier but en Ligue 1, lui qui a été le meilleur buteur de Ligue 2, 20 buts en 24 matchs l'année dernière, je pense que c'est important pour la défense. Donc je mettrai pour Tino Kadewere, en sachant que forcément les stats sortent pour le capitaine Memphis Depay.
Moi, j'ai mis Depay aussi, parce que là, c'est incontestable. Sur ce match, j'ai rien à dire. Daniel, t'es d'accord?
Surtout la dimension patron qui m'a plu, quoi. C'est genre, maintenant... Alors, il y a le... Alors, je n'aime pas le côté, tant que tout n'était pas réglé, j'étais pas au top, je jouais pas et tout. Et puis là, d'un coup, comme je sais que je vais rester, là, je m'y remets. Et on voit tout de suite que c'est le meilleur. Ça, je t'avoue que ça m'agace un peu. Une fois qu'on a dit ça...
C'est vrai que ça ressemble un peu à ça, quand même, hein.
Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, ok, t'as fait le patron, ok, t'as été décisif, c'est toujours toi le meilleur, très bien. Pour combien de temps? On sait pas, parce qu'après, il y a le cirque du mois de janvier pour qu'il se barre au mois de janvier. C'est quand même un petit peu fatigant la gestion de ce joueur, hein, honnêtement.
Ah, et puis quand il était en conférence de presse vendredi, je lui dis parce qu'il est brassard de capitaine. Alors c'est vrai que ça fait grincer un peu des dents au sein du groupe, parce que ce brassard, il passe d'un biceps à l'autre. Il a séché par exemple le lendemain de Lyon-Nîmes. Vous savez, normalement il y avait week-end, c'était un vendredi soir, et puis il y avait après le 0-0, Rudy Garcia a convoqué tout le monde, et le seul qui n'était pas là, c'était Memphis. Donc ça la fout un petit peu mal. Donc du coup, si vous voulez, d'une certaine manière, son capitana, après je suis là, je suis pas là. Alors après, il a répondu par les stats, hein, parce que mine de rien, il est impliqué quand même dans 7 buts de l'OL cette année. Il en a marqué, il a fait des passes décisives, comme tu le dis, son côté patron, son discours aussi en conférence de presse, un petit peu, je me remets un petit peu les supporters dans le bon sens.
Le problème, c'est qu'en fait,
cirque,
on sait.
Le cirque va recommencer.
C'est déjà écrit.
Keman a dit qu'il le voulait absolument au mois de janvier. Après, les finances du Barça au mois de janvier seront-elles les mêmes en rouge ou encore en rouge écarlate au mois de janvier? Ça, c'est, on verra. Mais en attendant, il a fait le métier hier à Strasbourg.
Un petit boulet, Edouard?
En fait, moi, je trouve qu'il a tellement mis la barre haute jusque-là que forcément, on va le noter sévèrement. Je parle de Jason Denayer parce qu'il a quand même été beaucoup gêné par Diallo et puis par ailleurs, qu'il n'est pas exempt de tout reproche sur les deux buts pris. En sachant que lui, il a tellement mis la barre haute depuis le début de la saison qu'après le retour, après la trêve internationale, je le mets un petit peu un boulet, mais un boulet pas très, très rouge. Mais sur ce match-là, il s'est quand même manqué, je trouve.
Bon, je pensais que tu allais dire Cornet. On va en reparler dans quelques instants dans notre petit débat des latéraux. Daniel, un autre joueur à citer dans les boulets?
En fait, c'est plus collectivement mener 3-0 et d'un coup se mettre à se faire bousculer de cette façon, reculer. Et comme a dit Rudy Garcia, je crois qu'il a dit un truc du genre on n'a pas le droit d'un coup de reculer. Je ne sais plus comment il dit ça, de reculer, enfin de subir autant. Donc c'est un petit peu toute l'équipe quoi, qui est à peine bousculée, a commencé à se mettre à partir dans tous les sens. Parce que si tu cites Donaire, j'imagine que tu cites notamment pour en deuxième mi-temps quand ça venait trop et tout sur lui et tout ça. Mais en fait, c'est toute l'équipe qui s'est disloquée. Donc, j'ai pas
ouais,
envie d'en prendre un seul de derrière pour lui taper dessus. Je pense que c'est vraiment toute l'équipe qui est partie en vrac quand Strasbourg s'est mis à beaucoup pousser, quoi.
On va parler justement de cette victoire. Est-ce qu'elle lance définitivement l'OL qui restait sur une série négative? C'est parti. Alors déjà, avant qu'on débatte, donne-nous le calendrier, parce que là, ça monte un peu en puissance quand même. Voilà, oui, évidemment, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, mais vas-y, Edouard.
Alors, entre les trois prochains dimanches, on va passer de l'inclassable Monaco dimanche prochain au leader incontesté et très puissant Lille à Lille. Ça sera le 1er novembre. Et allez, l'indécis, parce que quels que soient les classements, les formes des uns des autres, même s'il n'y aura pas de public, parce que ce sera
derby,
totalement
ouais.
À huis clos, ça sera à 21h, le 121e derby, donc le 8 novembre, donc trois semaines assez importantes, et ça monte crescendo. Et là, on va vraiment voir, parce que c'est trois équations différentes, on va voir ce que ça va donner. Quoi, en fait, si au sortir de cette série-là, il y a 10 points, pourquoi pas. Pas 10 points au total avec le Strasbourg. L'OL peut se remettre en marche. S'il n'y a pas ces 7 points dans ces 3 matchs-là, ça peut devenir un petit peu difficile sur la suite parce qu'en mine de rien, on sera vite au quart du championnat quand même.
Bon, donc ça veut dire que on peut pas dire là que ça y est, c'est parti, cette victoire,
non.
Elle débute.
Ah non, parce que d'abord on l'avait dit, cette analyse du calendrier, on l'avait faite la semaine dernière, et on avait dit effectivement Strasbourg, bon, vu l'état du club en ce moment, ça aurait été, alors là, vraiment terrible pour Lyon de ne pas aller gagner là-bas, je pouvais pas envisager autre chose. Quand je vois leur deuxième mi-temps, je ne suis pas complètement rassuré. Et au-delà de ce match contre Strasbourg, ce qu'on avait dit, enfin en tout cas moi ce que je continue de penser, c'est que c'est vraiment là, les trois matchs qu'on a cités qui peuvent devenir pour Lyon importants dans le sens où il y a trois matchs, 9 points, j'en prends 7 et bon, bah, je me dis, allez, je rêve encore à l'objectif initial. Mais si sur ces 9 points, je ne sais pas, tu ne vas pas perdre les trois matchs, mais genre t'en prends que 3. Là, pardon, mais Lyon n'y arrivera pas, quoi. Parce que comme tu disais, Doudou, à un moment, on sera au tiers du championnat. Il s'agit d'envoyer des messages, là. Là, c'est ton
Exactement,
téléphone,
ouais,
il est cassé,
ouais.
Là. Les SMS, ils marchent plus. Là. T'envoies plus aucun message, là.
Alors après, là, on a arrêté la crise de résultats, hein, parce qu'il y a résultat 51 jours après la dernière victoire, la première face à Dijon. Alors, ce genre de match, c'est souvent avec le temps.
T'as battu qui
si
pour l'instant, quand même, hein, depuis le début de l'année,
voilà,
t'as battu
ça.
Qui hein, quand même.
Ben pour l'instant, c'est pour ça que je voulais voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors, si à moitié vide, on dit que l'OL a battu le 18e Strasbourg et le 20e Dijon. Hier tu mènes 3-0 et finalement tu trembles jusqu'au bout, que tu concèdes quand même 20 tirs dont 9 cadrés, et puis d'une certaine manière tu n'as pas mis le quatrième qui aurait tué le match. Donc ça, c'est peut être le côté vert à moitié vide, et puis à moitié plein, tu as quand même 4 sauvetages sur la ligne, d'une certaine manière, ou 3 gros sauvetages du côté de Strasbourg. Il y a enfin les attaquants qui ont marqué, sauf Dembélé. Il y a les promesses de Paqueta, moi je trouve qu'il a apporté quand même quelque chose. C'est un match qui a été gagné quand même, voilà, dans la souffrance, ça peut rassembler un peu tout le monde. Je trouve que Thiago Mendes, on l'avait déjà dit, hein, Daniel et puis Gilbert la semaine dernière, il peut s'inviter vraiment dans le turnover au milieu de terrain, parce que là, Guimaraes était suspendu et Maxence Caqueret, touché par le Covid, n'était pas là. Voilà, donc ce côté résister ensemble, est-ce que ça peut être rassembleur? Seule la suite va le dire, et certainement va vraiment le dire. Donc soit tu le vois à moitié vide, ce verre, soit à moitié plein.
Mais alors moi, tu vois, Doudou, c'est pas pour toi, mais moi je déteste l'expression du verre à moitié vide ou moitié plein. Il faut juste voir le verre comme il est, quoi. C'est-à-dire, c'est voilà, il y a un peu d'eau.
Mais tu peux mettre en avant les.
Mais non, mais il y a pas à voir, il y a pas à exagérer des deux côtés. Il faut juste être
lucide. Mais le voir comme il est. Donc ça veut dire, tu dis comment? Tu dis c'est un verre avec de l'eau à mi-hauteur.
Voilà. Voilà, et t'analyses l'eau, quoi, je sais pas.
Très bien.
Bah non, oui. Mais c'est vrai que si tu dis uniquement, voilà, ils ont battu le 18e et le 20e, tu mènes 3-0, tu trembles jusqu'à au temps additionnel et t'as concédé 20 tirs. Si tu regardes le match comme ça, tu
bon,
dis
après,
que
cette stat, Edouard,
faire,
moi, pour avoir regardé le match attentivement, sur les 20 tirs, c'était un peu n'importe quoi, parce que Liénard qui tire dès qu'il a le ballon, même quand il est à 30 mètres, c'est un tir, alors que tu sais très bien
oui,
que c'est pas
c'est
dangereux.
C'est 9 cadrés quand même. 9 cadrés, t'as 3 belles parades de Lopez, quoi.
Bon, après, oui, c'était un match spectaculaire. Lopez, d'ailleurs, hein. qui bon, a pu jouer in extremis avec le son test négatif, peut-être que si c'est le troisième gardien, ça tourne pas pareil. Hein, parce qu'il fait quand même quelques arrêts décisifs. Hein.
Exactement, ouais.
Bon. Tant mieux pour l'OL. Alors, donc, on attend, parce que ce calendrier, comme tu dis, c'est vrai que le Lyon-Monaco, il est plus qu'indécis. On ne sait pas trop comment situer Monaco pour l'instant, mais enfin bon, il y a quand même de la, des capacités chez eux, donc à voir.
Et j'imagine que Monaco doit être un peu dans le même état d'esprit. Hein. Alors, ce n'est pas un podcast Monaco, mais Monaco aussi doit envisager le match contre Lyon comme le moyen pour eux d'envoyer ou non un SMS.
Après, Exactement. Est-ce que le match d'hier, d'après vous, a aussi renvoyé l'image que finalement l'OL est une équipe de contre ? Parce que les trois buts, c'est quand même marqué.
Lyon n'est que ça. Lyon n'est que ça. Lyon ne sait pas faire le jeu.
Bah hier, la vidéo avait bien marché comme quoi il fallait passer derrière la défense. Et les trois buts, finalement, sont passés un petit peu comme ça. Non, si on résume un petit peu, donc ça veut dire qu'on n'a pas totalement rassuré sur l'aspect on peut construire du jeu sur le long terme.
Ouais, bon, moi, c'est un match à l'extérieur. Une équipe qui doutait, je veux dire, c'est pas... Voilà, l'OL n'avait pas gagné depuis 5 matchs, c'est ça, Edouard ?
Ouais, 51 jours.
Bon, voilà, donc...
Voilà, j'aime bien comment Edouard il présente les choses. 51 jours, tu sais, je trouve que c'est beaucoup plus pesant, quoi, tu vois. Quand il dit 51 jours.
Mais ça, c'est la force d'Edouard. Edouard, il te dira jamais 5 matchs. C'est... Il te dira 5 matchs, donc 51 jours.
Oh là là là. Non, mais là, franchement, quand tu le dis, on a peur, quoi. Tu vois, tu le dis, on se demande et tout, c'est grave. Tu sais, ça fait affiche de film. Toi, tu devrais faire des bandes annonces de blockbusters américains, Edouard. Pense-y.
D'accord. Eh ben, écoute, j'y pense pour ma reconversion.
Alors, 51 days.
Dernier after. Débat, les gars. On a commencé à le faire,
The
ce débat.
After.
After Dijon.
On a commencé à le faire, ce débat, dans la fin de soir. Les latéraux. Parce que là, bon, on a d'un côté Cornet.
Tu veux faire quel débat ? Il n'y en a pas ?
Bah, si.
Tu
veux parler de quoi ? Bah, qui on met ?
C'est le point faible.
Cornet, on ne l'a pas vu. Enfin, il n'a pas été bon. Il ne sait pas son poste de base. De l'autre côté, Dubois, qui est quand même un international français. On voit que De Ciglio rentre et peut-être qu'on se dit, tiens, De Ciglio, il va peut-être lui piquer la place assez rapidement. Il y a deux cas très particuliers, là. Finalement, c'est qui les titulaires, à ton avis, Edouard ?
Bah, sur ce qu'on a un peu vu hier à l'entrée de Di Ciglio, et moi j'avais mis une petite pièce sur le fait que Di Ciglio allait être titulaire parce qu'il avait fait bonne impression à l'entraînement, c'est les retours que je pouvais avoir. Et puis côté gauche, bah, il n'y avait pas de suspense hein, parce que Melvin Barr étant blessé au mollet, c'est toujours une blessure un petit peu longue. Donc, et là, il l'est blessé, donc là, il n'y avait pas de suspense, à moins qu'il pouvait peut-être faire débuter Di Ciglio à gauche et Léo Dubois à droite. Donc il a préféré faire jouer Maxwell Cornet. Qui a été dans une défense à 4, vraiment l'ombre de lui-même sur ce coup-là.
Ombre, c'est pas grand-chose, alors t'imagines l'ombre de lui-même.
Bon, après, il revenait comme un petit peu tout le monde. Est-ce qu'il était cramé par ses matchs avec la sélection ivoirienne ? Ça peut être une explication, mais à ce moment-là, si le coach le sent un petit peu cramé à l'entraînement, il y aura peut-être une autre possibilité. Mais en tout cas, c'est vrai que là, clairement, c'est les latéraux.
Donc en gros, on s'oriente peut-être vers un duel de Ciglio. Dubois et de l'autre côté Melvin Barr, dès qu'il est prêt il jouera.
Moi je pense que De Ciglio prendra d'abord la place d'un des deux parce qu'il est capable de jouer des deux côtés et qu'après si Bartaba revient et s'impose comme potentiel titulaire, il peut prendre la place de Cornet à gauche.
Après, il faut voir la durée d'indisponibilité. Le mollet, c'est toujours bizarre hein. Ça, tu mets toujours un petit mois à t'en remettre
la nature de...
Ouais, je suis plus solaire, moi, que mollet, mais...
et la nature ayant horreur du vide, et notamment le foot de haut niveau, il se peut qu'il y en ait un qui fasse sa place pendant que Melvin Barr soit blessé. Alors, a priori, ce n'est pas Maxwell Cornet, mais est-ce que ça peut être Di Ciglio ?
Non, mais après, tu as aussi la configuration défense à 5, où là, Cornet sera peut-être plus utilisé parce qu'il est quand même plus offensif, quoi, voilà. Ça peut aussi être...
Ça peut être aussi une...
Il y a aussi, dans ce cas-là, voilà, ça peut changer un peu la donne. Dubois, ça peut être quand même chaud pour lui. Hein. Je veux dire, si à Noël, par exemple, le mec joue plus parce qu'il se fait piquer sa place, c'était international, il va vouloir se barrer. Hein.
Alors, faut pas oublier que là, on le juge sur ce match-là, et c'est vrai que c'est pas forcément depuis le début de l'année, il a pas son niveau international, on va dire. Là, il a été aussi bloqué par une période de Covid. Hein. Donc, ça a peut-être coupé les jambes. Je parle de ce match-là.
Hein. Voilà. Bon, à suivre concernant. Voilà. Sinon, les Lyonnais, ils font quoi dans la semaine? Ils regardent la Coupe d'Europe à la télé, du coup? Ils choisissent quel match? Je veux dire, ils vont plutôt regarder le PSG, Marseille.
C'est vrai que ça fait tout drôle, quand même. C'est vrai que ça fait tout drôle. 23 ans que l'OL avait au moins un match par semaine, sauf quand même dans la saison 2014-2015, hein, où les Lyonnais avaient été éliminés par Assia Georgiou. Souvenez-vous, magnifique, ce tour de barrage
on s'en souvient.
À la frontière de la Bulgarie. Et donc, du coup, vu que c'était en tour préliminaire, ben, à partir du mois de septembre, il n'y avait pas eu de match. Hein, donc, c'était un petit peu comme ce moment-là, mais bon.
Bon, je chambre, hein, semaine, évidemment. Coup, que les Lyonnais ne se vexent pas. Qu'ils continuent quand même d'écouter le podcast After Lyon.
Ouais, du coup, le mercredi, il y a opposition, quoi, en fait. Voilà.
En matière de chambrage un peu con-con, je ne sais pas si vous avez vu celui fait par des supporters rennais qui chambre Lyon, genre, parce qu'eux, ils sont en Ligue des Champions et pas Lyon. Tiens, franchement, le chambrage, moi je dis toujours, ok, ça fait partie du foot, mais des fois, non, t'as pas de limite, quoi. Les mecs, ils y sont pour la première fois, ils vont chambrer Lyon qui est pas, alors que, bon, ils sortent d'une demi et qu'ils y sont depuis 20 ans, quoi, quasi.
Ouais, ils ont fait 200 matchs de Ligue des Champions.
Non, mais franchement, il y a des limites. C'est vraiment le nouveau riche, là, qui se la raconte, là, le boulard.
Oh là, c'est quoi, c'est Jérôme Thomas qui a fait le...
Non, c'est pas Jérôme Thomas. Non.
Merci Edouard, merci Daniel en tout cas. Le prochain podcast After Lyon, ce sera dès la semaine prochaine. Bye bye.
RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.